Chapitre 17, où les pétards de Camille font long feu. Quand on se fut bien extasié sur le talent de la future débutante, quand on eut épuisé en sa faveur toutes les formules de l'éloge, chacun des heureux auditeurs, en promettant de la prôner dans son cercle, se laissa peu à peu attirer du boudoir vers le salon où retentissaient les premiers accords de l'orchestre et passa de la musique à la danse. Le seul épisode digne d'être rapporté dans le mouvement qui se fit à cette occasion, et que nous mentionnerons parce qu'il se lie tout naturellement à notre drame, c'est le faux pas que fit Camille de Rosan en adressant étourdiment la parole à des gens qui connaissaient à fond l'histoire de Carmélite. Madame de Rosan, sa femme, jolie créole de 15 ans, avait été provisoirement accaparée par une douairière d'origine américaine qui se déclarait sa parente. Camille, voyant sa femme en famille, avait profité de la circonstance pour redevenir garçon. Il avait aperçu Ludovic, son ancien camarade, presque son ami, et aussitôt le calme rétabli, à la suite de la sortie de Carmélite, dont il avait attribué l'évanouissement à la simple émotion, il s'était précipité vers le jeune docteur avec le vif engouement d'un étranger nouvellement arrivé qui retrouve une ancienne connaissance, et lui tendant la main, « Par Hippocrate » s'était-il écrié, « C'est monsieur Ludovic !»« Bonjour, monsieur Ludovic, comment se porte monsieur Ludovic ?»« Mal, » répondit froidement le jeune médecin. « Mal, » répéta le créole, « mais vous avez le mois d'avril sur les joues. » « Qu'importe, monsieur, si j'ai le mois de décembre dans le cœur. Vous avez du chagrin ?»« Plus que du chagrin, de la douleur. »« Une douleur ?»« Profonde. »« Mon Dieu, mon pauvre Ludovic, auriez-vous perdu un parent ?»« J'ai perdu quelqu'un de plus cher qu'un parent. »« Qu'y a-t-il donc de plus cher qu'un parent ?»« Un ami, attendu que c'est plus rare. »« Est-ce que je le connaissais ?»« Beaucoup. » « Un de nos camarades de collège ?»« Oui. »« Oh, le pauvre garçon, » dit Camille avec une suprême indifférence. « Et comment s'appelait-il »« Colomban, » répondit sèchement Ludovic en saluant Camille et en lui tournant le dos. Le créole fut prêt de sauter à la gorge de Ludovic, mais nous avons dit ailleurs qu'il avait de l'esprit. Il comprit qu'il avait fait fausse route. Il pirouetta sur les talons, remettant sa colère à une meilleure occasion. En effet, si Colomban était mort, Ludovic avait le droit de s'étonner que Camille ne fût pas plus attristée d'un pareil événement. Mais comment pouvait-il être attristé de cet événement? Il l'ignorait. Pauvre Colomban, si jeune, si beau, si fort, de quoi avait-il pu mourir? Camille chercha des yeux Ludovic pour lui dire qu'il ignorait tout et lui demander des détails sur la mort de leur ami commun, mais il avait déjà disparu. Tout en cherchant Ludovic, les regards de Camille tombèrent sur un jeune homme dont il crut reconnaître le visage sympathique. Seulement, il lui était impossible de mettre un nom sur ce visage. Il l'avait vu, il en était certain, il l'avait connu, il pensait en être sûr. Si c'était à l'école de droit, ce qui était probable, ce jeune homme pourrait lui donner les renseignements qu'il désirait. Il alla donc à lui. « Pardon, monsieur, dit-il, j'arrive ce matin de la Louisiane, qui est à moitié chemin à peu près des Antipodes. J'ai fait naturellement 2000 lieues en mer, par suite de quoi il me reste dans le cerveau une sorte de tangage et de roulis intellectuels qui m'ôte à la fois le discernement et la mémoire. Pardonnez-moi donc la question que je vais avoir l'honneur de vous adresser. » « Je vous écoute, monsieur, » répondit assez poliment, mais cependant avec assez de sécheresse celui qu'il venait d'accoster. « Je crois, monsieur, » reprit Camille, « vous avoir vu dans plusieurs circonstances à mon dernier voyage à Paris, et quand je vous ai aperçu tout à l'heure, votre figure m'a frappé comme celle d'une vieille connaissance. Avez-vous plus de mémoire que moi, et ai-je l'honneur d'être connu de vous ?» « Vous avez raison, je vous connais parfaitement, monsieur de Rosan, » répondit le jeune homme. « Ah, vous savez mon nom !» s'écria joyeusement Camille. « Comme vous voyez. Et me ferez-vous le plaisir de me dire le vôtre ?»« Je me nomme Jean-Robert. » « Ah, c'est cela, Jean-Robert, ah, parbleu, je savais bien que je vous connaissais. Un de nos plus illustres poètes et l'un des meilleurs amis de mon camarade Ludovic, si je ne m'abuse. » qui lui-même était un des meilleurs amis de Colomban, répondit Jean Robert en saluant sèchement le créole et en se retournant. Mais Camille l'arrêta. « Monsieur, par grâce, lui dit-il, vous êtes la seconde personne qui me parle de la mort de Colomban. Pourriez-vous me donner des détails sur cette mort ?»«
Lesquels ?»«
Je désire savoir de quelle maladie Colomban est mort. »«
Il n'est pas mort de maladie. » »«
Aurait-il donc été tué en duel ?»«
Non, monsieur, il n'a pas été tué en duel. »«
Mais enfin, comment est-il mort ?»«
Il s'est asphyxié, monsieur. »
Et cette fois, Jean Robert salua si froidement Camille que celui-ci, tout entier d'ailleurs à son étonnement, ne songea pas à l'arrêter davantage.
« Mort, murmura Camille, mort asphyxié, qui aurait pu supposer cela de Colomban, lui, si pieux ?»«
Ah, Colomban !» Et Camille leva les mains au ciel en homme qui, pour croire la chose qu'on vient de lui dire, aurait besoin qu'on la lui répétât deux fois. En levant les mains, Camille leva les yeux, et en levant les yeux, il aperçut un jeune homme qui paraissait absorbé dans les plus profondes réflexions. Il le reconnut pour un artiste qu'on lui avait montré pendant le trouble qui avait suivi l'évanouissement de Carmélite, et qu'on lui avait dit être un des peintres les plus distingués. La figure de ce jeune homme exprimait la plus vive admiration. C'était Pétrus que l'effort sublime de Carmélite remplissait à la fois de tristesse et d'orgueil. Les artistes avaient donc un autre cœur que le reste des hommes. Les artistes avaient donc une autre âme. Les artistes étaient donc des êtres privilégiés, pour la douleur peut-être, mais enfin, puisqu'ils triomphaient si royalement de la douleur, c'étaient des êtres à part. Camille se trompa à l'expression du visage de Pétrus. Il le prit purement et simplement pour un dilettante en extase, et allant à lui avec l'intention de lui faire un compliment des plus agréables, « Monsieur, lui dit-il, si j'étais peintre, je ne choisirais pas d'autre physionomie que la vôtre pour exprimer le ravissement d'un grand cœur en entendant la divine musique du grand maître. » Pétrus regarda Camille avec une froideur dédaigneuse et s'inclina sans répondre. Camille continua, « Je ne sais pas précisément jusqu'où va l'enthousiasme des Français pour la musique du divin Rossini, mais dans nos colonies, il fait fureur. C'est de la passion, de la frénésie, du fanatisme. J'avais un ami, amateur de la musique allemande, qui a été tué en duel pour avoir prétendu que Mozart était supérieur à Rossini et dit qu'il préférait les Nozze di Figaro au Barbier de Séville. Pour moi, j'avoue que je suis partisan de Rossini, que je le mets à 100 pieds au-dessus de Mozart. C'est mon opinion, et au besoin, je la soutiendrai jusqu'à la mort. » « Ce n'était pas, je crois, l'opinion de votre ami Colomban, monsieur, » dit Pétrus en saluant froidement le créole.
« Ah, parbleu !» s'écria Camille, « puisque tout le monde s'est donné le mot ici pour me parler de Colomban et que vous faites comme tout le monde, monsieur, vous me direz si c'est à cause du triomphe de Rossini sur Mozart qui s'est asphyxié. »
« Non, monsieur, » répondit Pétrus avec une suprême politesse. « Il s'est asphyxié parce qu'il aimait Carmélite et qu'il a préféré mourir plutôt que de trahir son ami. » Camille jeta un cri et porta ses deux mains à son front comme si un éblouissement passait sur ses yeux. Pendant ce temps, Pétrus, ainsi qu'avaient successivement fait Ludovic et Jean-Robert, passa du boudoir dans le salon. Au moment où Camille, un peu remis du choc qu'il venait d'éprouver, écartait ses mains de son visage et rouvrait les yeux, il vit devant lui, ce qui ne lui était pas encore arrivé depuis son entrée dans les salons de M. de Marande, un jeune homme de belle et hautaine tournure qui se tenait prêt à l'aborder quand lui-même serait prêt à soutenir cet abordage.
« Monsieur, dit le jeune homme, j'apprends que vous arrivez des colonies ce matin même et que, pour la première fois, ce soir, vous avez été présenté à monsieur et madame de Marande. Voulez-vous me faire l'honneur de m'accepter pour parrain dans les salons de notre commun banquier et pour guide à travers les plaisirs de la capitale ?»
Cet obligeant cicérone, c'était le comte Laurédan de Valgeneuse, qui avait, dès son entrée, remarqué la jolie créole que venait d'importer en France Camille de Rosan et qui, à tout hasard, essayait de se bien mettre avec le mari pour, le cas échéant, se mettre, s'il était possible, mieux encore avec sa femme.
Camille respira en rencontrant un homme qui échangeait 10 minutes avec lui sans que le nom de Colomban fût mêlé à ses 10 paroles. Il va sans dire qu'il accepta avec empressement l'offre de monsieur de Valgeneuse. Les deux jeunes gens s'engagèrent alors dans les salons de danse. On venait de jouer le prélude d'une valse. Ils entrèrent juste au moment où la valse commençait. La première personne qu'ils rencontrèrent en entrant dans le salon, on eût dit que son frère lui avait donné là rendez-vous tant elle semblait attendre, ce fut mademoiselle Suzanne de Valgeneuse. « Monsieur, dit Loredan, permettez-moi de vous présenter à ma sœur, mademoiselle Suzanne de Valgeneuse. » Puis, sans attendre la réponse de Camille, que du reste on pouvait lire dans ses yeux, « Ma chère Suzanne, dit le comte, je vous présente un nouvel ami, monsieur Camille de Rosan, gentilhomme américain. » « Oh, mais, dit Suzanne, votre nouvel ami, mon cher Loredan, est pour moi une ancienne connaissance. »« Ah bon, et comment cela ?»« En quoi, dit Camille, avec une orgueilleuse joie, aurais-je l'honneur d'être connu de vous, mademoiselle ?»« Oh, parfaitement, monsieur, répondit Suzanne. À Versailles, dans la pension où j'étais, il n'y a pas bien longtemps encore, j'étais étroitement lié avec deux de vos compatriotes. » En ce moment, Regina et Madame de Marande, après avoir confié aux soins d'une femme de chambre carmélite revenue de son évanouissement, entraient dans la salle de bal. Loredan fit un signe imperceptible à sa sœur qui lui répondit par un imperceptible sourire. Et tandis que, pour la troisième fois de la soirée, Loredan s'apprêtait à renouer avec Madame de Marande la conversation toujours interrompue, et Camille et Mademoiselle de Valgeneuse, pour faire plus ample connaissance, s'élançaient dans le tourbillon vertigineux de la valse et s'y perdaient au milieu d'un océan de gaz, de satin et de fleurs.